72. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacable, calomniateur, incontinent, cruel, n'aimant pas le bien, traître, téméraire, enflé d'orgueil, ami des voluptés plutôt qu'ami de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens, car d'entre eux sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui mènent captives des femmelettes chargées de péché, entraînées par des convoitises diverses, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Or, de la même manière dont Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, ainsi aussi ceux-ci résistent à la vérité. Hommes corrompus dans leur entendement, réprouvés quant à la foi. Mais ils n'iront pas plus avant, car leur folie sera manifeste pour tous, comme a été celle de ceux-là aussi. Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelles persécutions j'ai endurées, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, séduisant et étant séduits. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises, et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre.
Quelques mots d'introduction sur notre sujet. Dans la première épître à Timothée, l'Assemblée nous est présentée dans son ordre à l'origine, et nous pouvons la considérer comme la maison de Dieu, l'Assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Et sont exposés, en ce qui concerne tous les croyants, tous les serviteurs de Christ, les fonctions, les responsabilités, et ils peuvent chacun recevoir les instructions sur la manière dont ils doivent se conduire dans un lieu aussi digne et aussi béni. Dans la deuxième épître à Timothée, nous avons quelque chose de tout à fait différent, et nous pouvons dire que le décor a changé complètement. La maison de Dieu, qui était considérée dans la première épître comme un ordre, est maintenant considérée comme étant en ruine, ayant été édifiée par des hommes et par ses serviteurs. Ce qui est remarquable, c'est que Dieu a permis que les choses aillent mal du temps des apôtres. Et déjà, pour que nous sachions ce qu'il faut faire aujourd'hui dans un temps de déclin, dans un temps de décadence et un temps de ruine. Et autour de nous, et peut-être aussi dans les assemblées, nous pouvons voir combien l'Église est en décadence. Et nous devons sans doute avoir la conscience que nous y contribuons chacun personnellement dans cette ruine. Et donc, non pas peut-être considérer les choses dans ce que nous allons étudier comme des théologiens qui sont au-dessus de ce qui nous est expliqué, mais au contraire, comme des frères et des sœurs qui participent à un tel état de ruine. Mais cependant, l'apôtre Paul, ici, comme nous l'avons exprimé dans une prière, est prisonnier. Mais dans l'épître, dans cette deuxième épître à Timothée, il ne désire pas nous décourager. Il ne désire pas que nous puissions baisser les bras, car le désespoir ou le doute ne vient pas de Dieu. Mais nous devons au contraire avoir foi en Dieu dans de telles circonstances. Et dans ces dernières paroles, voyons Paul qui encourage Timothée à la fidélité, et sans doute dans ce temps-là, au milieu de la défection générale. Et il désire et nous montre comment se comporter dans un tel état. Dans le premier chapitre, nous avons bien sûr toutes les ressources divines, et en particulier, il est souligné ce qui est dit sur la foi. Et nous voyons au contraire que Dieu nous donne ses ressources pour que dans de telles circonstances, notre foi personnelle brille. Et il souligne en particulier la foi de Timothée, une foi sincère. Une foi sincère, c'est une foi véritable, non feinte. Un croyant qui s'appuie sur Dieu seul. La deuxième chose que nous pouvons trouver aussi sans doute, c'est dans le deuxième chapitre, de cette deuxième épître, cette expression « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et « Souviens-toi de Jésus-Christ », c'est sans doute l'antidote au découragement, c'est-à-dire au-dessus des difficultés, au-dessus de la confusion, au-dessus de la ruine. L'apôtre nous dit au fond, et dit à son fils bien-aimé, Timothée, bien, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi du juste, comme il nous est dit à deux reprises dans les Proverbes. Et pour soutenir notre foi dans de telles circonstances, eh bien, nous devons nous souvenir de Jésus-Christ ressuscité, c'est-à-dire ressuscité par la puissance de Dieu, une puissance divine qui est aussi à notre disposition, si nous savons nous tenir à notre place, à notre place d'infirmité et de faiblesse, eh bien, la puissance de Dieu peut être nous soutenir dans de telles épreuves. Et donc, nous voyons aussi que, souviens-toi de Jésus-Christ qui était issu de David. Issu de David, cela veut dire que c'est le Dieu des promesses. Le Dieu de David, c'était un Dieu qui tenait ses promesses. C'est-à-dire que toutes les instructions qui nous sont données pour soutenir notre foi dans de telles circonstances, toutes les promesses divines, eh bien, elles sont à notre disposition. Elles sont vraies en Christ. Et bien que dans cette étude de la parole de Dieu, dans les circonstances que nous puissions connaître, que notre foi soit soutenue, entretenue, que nous puissions regarder au-dessus des circonstances, nous souvenir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Et que Dieu bénisse cette étude aujourd'hui.
Peut-être à la suite de cette introduction de notre frère Michel, on peut montrer, on peut donner un certain fil qui va dans notre chapitre, qui nous aide de comprendre un peu la structure, l'enseignement de l'apôtre dans ce chapitre. Dans le premier verset du chapitre 3, on voit le thème, le sujet. L'apôtre parle d'un temps qui était encore futur quand il a vécu, dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est un temps qui a le caractère, c'est le point de ce premier verset, que le caractère de ce temps est donné. Premièrement, dernier jour. Deuxièmement, temps fâcheux. Ça veut dire dangereux. Les versets 2 à 4 nous montre les caractéristiques de ces temps. 18 ensemble. Et le verset 5 ajoute, et je crois qu'il est très important de comprendre que le verset 5 nous donne le cadre de cet enseignement. Seulement par voir, par comprendre, on peut se dire aussi le résumé de ces peut-être 18 caractéristiques, il montre qu'on ne peut pas voir directement ces caractéristiques. Ils sont derrière une forme qui semble être bien, mais qui ne l'est pas. On va le voir. À partir du verset 6 jusqu'à verset 8, jusqu'à verset 9, on voit que l'ennemi, dont ces personnes qui forment la chrétienté, qui sont caractérisées par ces caractéristiques, il a des moyens. Il a des moyens qu'il utilise pour encore souligner, pour encore mettre le mal, les mauvaises choses en avant. Et il nous montre deux stratégies que ses ennemis utilisent pour cela. À partir du verset 10 jusqu'à verset 17 à la fin, on voit deux ressources que Dieu nous a données pour résister contre ces dangers. La première ressource, c'est de suivre un enseignement divin qui est montré par une autorité morale vraie dans ces instruments que Dieu utilise pour le bien de son assemblée. C'est particulièrement Paul, mais aussi d'autres aujourd'hui. De suivre les enseignements de ceux qui, par leur vie, montrent la réalité divine de cet enseignement. Et verset 14 et plus tard nous montre que de demeurer dans, comme il est dit ici, les choses que tu as apprises, ça veut dire de demeurer dans les enseignements qui sont fondés sur l'enseignement ou sur les saintes lettres, ça veut dire l'Écriture. Disons toute l'Écriture, de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, de chaque partie et particulièrement certainement de la vérité chrétienne, de demeurer dans ces choses si on les a appris. Ça veut dire qu'il faut premièrement les apprendre pour être capable de demeurer dans ces choses. Alors, même si le temps est difficile, même si le temps est dangereux, et avec cela, le chapitre commence maintenant, il y a des ressources divines qui nous aident de ne pas suivre le pas de cette chrétienté qui a une forme de piété, mais qui nie la puissance, mais de suivre le Seigneur avec joie et avec la communion avec Dieu.
En rapport avec le premier verset, on voit que la volonté de Paul était que Timothée connaisse, sache le caractère des temps dans lequel il vivait et dans lequel nous, plus tard, les croyants vivraient. Et il me semble que c'est un point qui est important. Et je mentionne un verset de 1 Chronique 12 où il y a une expression en rapport avec les fils d'Issachar, parmi ceux qui suivaient David. Il y en avait certains, il est dit d'eux, 1 Chronique 12, verset 33, « Et des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc il y avait ces personnes qui savaient discerner les temps. Et il me semble que ça fait un... Il y a un lien avec ce premier verset du chapitre 3. C'est Paul qui attire l'attention sur Timothée en rapport avec la qualité des temps dans lesquels il vivait et les croyants vivraient plus tard. Et d'une manière générale, on voit dans la Bible, dans la parole de Dieu, qu'il y a des périodes différentes. On parle des dispensations, on parle de la période de la grâce, du temps de l'assemblée sur la terre. Et nous vivons dans le temps de l'assemblée sur la terre qui commence le jour de la Pentecôte et qui se termine à l'enlèvement de l'Église. Et donc ça, c'est un aspect général, le temps de l'assemblée, le temps de la grâce. Mais il y a, on pourrait dire, une différence dans ce temps-là entre les temps du début et les temps de la fin. Et les temps du début de l'Église, c'était des temps de puissance, on le voit, début des Actes. Mais il faut être conscient que la Bible nous présente les temps de la fin de cette période comme des temps fâcheux ou difficiles. Et il y a, dans le Nouveau Testament, plusieurs chapitres, passages, qui nous parlent en rapport avec cette période-là. Ici, par exemple, la deuxième épître à Timothée. On peut penser aussi à la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, l'épître de Jude, et aussi, dans un sens, l'épître de Jean, au chapitre 2, où il est parlé de la dernière heure. Donc, nous sommes avertis, nous sommes enseignés qu'il y a une période plus difficile qui concerne la fin de l'Église, du temps de l'Église sur la terre, et nous sommes non pas seulement avertis en rapport avec cela, mais nous recevons un enseignement qui nous montre aussi les ressources que nous pouvons avoir dans une telle période, et c'est cela qui est important.
Dans le cadre général de ce chapitre, voyons que ce verset commence par les hommes. Les hommes auront un certain nombre de caractères, les hommes dans la chrétienté. Nous voyons un peu plus loin, au verset 8, qu'il y a des hommes qui sont corrompus dans leur entendement, réprouvés quant à la foi. Nous voyons encore un peu plus loin, au verset 13, des hommes méchants et imposteurs. Quel tableau ! Mais où cela nous conduit-il ? Verset 17, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. » Il y a ce chapitre nous amène à ce contraste entre les hommes qui sont là, qui ont pris place dans la chrétienté, qui prétendent imposer leur caractère, leurs idées, leur corruption, la façon dont ils détruisent la foi, et puis Dieu ne reste pas sans témoin. On pourrait se dire que tout est perdu, mais Dieu veut avoir des témoins au sein de cette chrétienté. Il y a l'homme de Dieu. Et Dieu va donner, comme on l'a dit déjà, des ressources dans cette épître. C'est une épître où beaucoup de choses vont mal. Dans un sens, c'est un peu l'épître des pleurs aussi. Mais c'est une épître où il y a des ressources. Et ce chapitre qui nous parle au moins à trois reprises de ce que sont ces hommes corrompus va finir en nous parlant de l'homme de Dieu et des ressources pour l'homme de Dieu. Ces ressources pour l'homme de Dieu, c'est d'abord et fondamentalement s'attacher à la parole de Dieu, à toute l'Écriture, et non pas aux pensées et aux enseignements de ces hommes corrompus. Et ça, c'est vrai pour nous aujourd'hui. L'homme de Dieu, cela peut être chacun de nous, croyant, attaché au Seigneur, dans toute la mesure où notre vie, notre caractère n'est pas formé par toute cette corruption de la chrétienté, par cette fausse piété, mais où il est formé par la parole de Dieu.
Je voudrais faire une remarque sur le mot « fâcheux ». On dit que c'est des temps fâcheux, des temps difficiles. Le mot grec, nous le retrouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, pour montrer que ce sont des temps extrêmement solennels. Dans Matthieu 8, au verset 28, il nous est dit « Quand Jésus arriva à l'autre rive, dans le pays des Gergéséniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent à sa rencontre, et ils étaient très violents, en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. » Eh bien, le terme de « fâcheux », bien, nous le retrouvons traduit par « très violent ». Et il faut que nous prenions conscience que les temps dans lesquels nous vivons sont fâcheux, mais très violents pour la foi, contre la foi. Et les exemples qui nous sont donnés du caractère de ces hommes de ces derniers temps, eh bien, il ne faut pas oublier que ce sont des temps extrêmement difficiles et très violents pour la foi.
Lorsque nous sommes devant une telle description, on est toujours en danger de tomber dans deux écueils. Le premier, c'est un écueil d'un sentiment naturel. Les choses étaient beaucoup mieux quand on était jeune, et maintenant ça se dégrade. Et puis le sentiment opposé, non mais vous êtes pessimiste, en fait, en réalité, les choses restent comme elles ont toujours été, le péché est le péché, le monde est le monde. Et au milieu de cela, nous devons nous laisser former par la parole de Dieu. On a déjà fait allusion à la deuxième épître de Pierre. Il y a un verset dans le chapitre 3, et il s'agit des moqueurs. Chapitre 3, verset 4 de la deuxième épître de Pierre, au milieu du verset, « Toute chose demeure au même état dès le commencement de la création. » Donc il y a l'incrédulité qui nous fait croire et le monde centré sur l'homme tel qu'il nous est décrit ici, le monde nous fait croire qu'en réalité les choses s'améliorent, l'homme grandit, l'homme progresse. On va rentrer certainement dans le détail des caractères qui sont décrits ici. En réalité, quel est le moteur de tout cela, il y a le diable qui cherche à s'opposer à tout ce que Dieu a institué. Et cela, nous devons le reconnaître dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est cela qui pilote en quelque sorte, qui anime le monde. Je prends un exemple concret. L'homosexualité existe depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, on parle du mariage homosexuel. Le mariage, une institution divine détournée à des fins de péché. Voilà l'esprit du monde et des hommes au milieu desquels nous sommes.
Nous avons devant nous une lettre écrite pour un individuel. Une lettre qui nous parle personnellement à nos cœurs, à nos consciences. Mais ici, premièrement, nous avons déjà, vous voyez dans le chapitre 2 par exemple, qu'il est dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. » Ou plus tard, comme ça a été mentionné, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Et puis, remets ces choses en mémoire. Et puis, il nous est montrer quel est l'état actuel de la situation, l'état dans lequel nous vivons. Il nous est premièrement dit comment nous devons vivre personnellement. Et ça, nous voyons déjà dans le chapitre 2, où il nous est décrit cette grande maison, où il y a des vases à honneur et déshonneur, où il y a des vases avec qui sont formés de quelques matériels précieux et de matériels naturels. Mais là, il est dit que nous devons faire une différence dans notre vie, dans notre comportement, de nous séparer de telles vases de déshonneur. Et puis, il nous est dit que « Mais fuis les convoitises de la jeunesse ». Et puis, après, cela, comment il faut que l'esclave du Seigneur conteste pas. Mais alors, nous voyons comment nous devons nous comporter individuellement dans cette grande maison. Et puis, il nous est décrit comment dans cette grande maison, ça va encore développer. Nous voyons ici, or sache ceci. Maintenant, nous sommes exhortés de savoir quel est le temps dans lequel nous vivons. Et là, nous est décrit quelque chose qui nous impresse. Si nous voyons tous ces caractères terribles là, de ce monde dans lequel nous vivons. Et nous devons faire attention de ne pas nous être égal à ce monde dans lequel nous vivons, de ne pas nous être contents. Nous vivons dans ce monde, alors nous voulons certainement avoir une vie tranquille, alors nous égalisons plus ou moins à ce monde. Non. C'est pourquoi nous avons ce chapitre qui nous dit « Mets-toi ». Après cette description qui est terrible, il est dit « Mets-toi ». Alors, nous devons nous rendre compte dans quel monde nous vivons pour après dire « Voilà, nous devons être différents de ce monde ». Mais il y a un « Mets-toi », homme de Dieu. Déjà dans la première épître, il est déjà dit de cet homme de Dieu. Mais ici, maintenant, cet homme de Dieu doit vraiment montrer qu'il n'est pas un homme de ce monde, mais il est un homme de Dieu avec une relation avec Dieu et pas qui vit dans ce monde comme quelqu'un qui a toutes ses racines dans ce monde. Non, mets-toi. Alors, mais pour pouvoir bien nous différencier de ce monde, il faut aussi savoir dans quel monde nous vivons. C'est pourquoi il nous est décrit cette description qui nous impressionne.
Deux ou trois remarques. D'abord, constatons que l'apôtre Paul s'adresse à Timothée. Timothée qui était jeune dans la foi. Et c'est quelque chose que nous avons à retenir. C'est que la parole de Dieu, elle s'adresse à toutes les générations. N'attendons pas d'avoir passé de nombreuses années sur la terre pour écouter ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu, elle s'adresse à tous ceux qui ont la foi, quel que soit leur âge. Et nous voyons comment Timothée a été élevé dans une famille où, dès son enfance, il a pu entendre les vérité de la parole de Dieu. Il les a reçus, il les a crus, et là, l'apôtre l'avertit et continue à l'enseigner. Nous avons besoin, à tout âge, d'entendre ce que la parole de Dieu nous dit. Deuxième remarque, quand nous lisons ce tableau des versets 2 et suivants, nous avons un tableau particulièrement affligeant et solennel. Il y a plusieurs passages de la parole où nous trouvons des avertissements concernant ce qui nous est dit ici. Nous pouvons lire dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3. Verset 18. « Car plusieurs marches, dont je vous ai dit souvent, et dont maintenant je le dis même en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ, dont la fin est la perdition, dont le Dieu est le ventre et dont la gloire est dans leur honte, qui ont leur pensée aux choses terrestres. » Nous l'avons entendu, il est question des hommes, de l'homme dans ce verset. C'est encore quelque chose de sérieux, parce que souvent, parole de Dieu, elle s'adresse à ceux qui ont le caractère de saints. Et ce n'est pas ceux qui ont le caractère de saints ici, ce sont les hommes, dans toute l'horreur que la nature humaine peut manifester. Et il nous est dit, en Philippiens, nous l'avons lu, qu'ils peuvent être ennemis de la croix de Christ. Voilà jusqu'où nous pouvons tomber, parce que c'est un avertissement qui s'adresse à nous. Nous sommes tous, dans notre nature humaine, des hommes. Et si nous ne veillons pas, et si nous ne sommes pas vigilants, Eh bien, voilà jusqu'où nous pouvons aller, être ennemis de la croix de Christ. Quelle chose! Quand nous pensons à la croix de Christ, là où le Seigneur a donné sa vie pour nous, a porté nos péchés sur le bois de la croix, et où il a accompli la volonté de Dieu, entrant dans la mort, nous pourrions être ennemis de cela. Combien c'est terrible! La parole de Dieu est toujours très sérieuse dans les avertissements qu'elle nous donne. Dernière pensée, quand nous lisons ces caractères, pouvant en relever trois. Ces hommes seront égoïstes. Qu'est-ce que c'est qu'être égoïste? Être égoïste, c'est s'aimer soi-même, se donner à soi-même toute l'importance. Avare, c'est en relation avec l'argent. L'égoïste, il s'aime lui-même. L'avare, il aime l'argent. Et puis, un peu plus loin, il nous est dit, ami des voluptés plutôt qu'ami de Dieu. Ami des voluptés, c'est aimer les plaisirs. Voilà trois dangers qui sont dans notre cœur, dans le cœur de l'homme. S'aimer soi-même, ne pas se juger et se laisser conduire par sa vieille nature. Aimer l'argent pour pouvoir vivre dans ce monde avec des ressources humaines et non pas avec le secours de Dieu et du Seigneur. Ami des voluptés, passer son temps de libre et peut-être plus au plaisir que le monde peut offrir. Et tout cela, nous l'avons entendu, c'est Satan qui est derrière. Mais nous avons besoin de fermer nos oreilles et nos cœurs aux attaques de l'ennemi. Mais ce qu'il y a dans ces trois exemples, c'est quelque chose qui nous parle de l'amour, c'est-à-dire de quelque chose qui est intérieur. Et si, dans la suite, nous voyons des manifestations extérieures, tout a pour point de départ dans notre vie ce qui est intérieur. Et c'est bien sur notre cœur que nous avons besoin d'être particulièrement attentifs pour vider nos cœurs de nous-mêmes et pour y laisser toute la place au Seigneur Jésus, pour que ce soit lui qui habite dans nos cœurs. Alors, quand c'est lui qui habite dans nos cœurs, il nous dirige, il nous conduit, et avec son secours, avec toute la force qu'il nous donne, en nous tenant petits à nos propres yeux, nous pouvons quelque peu le servir et l'honorer et réjouir son cœur.
Si on voit cette liste, pourquoi est-ce que c'est si grave? Parce que, comme Pierre-Éric a montré, ce sont les hommes, mais où? Dans la chrétienté. Ce n'est pas comme dans Romains 1, les païens, mais c'est dans la chrétienté qui confesse être de Christ pour Christ. Et nous formons partie de cette chrétienté. Alors l'apôtre nous aide à vraiment voir qu'il est derrière un manteau de piété. Les chrétiens, les pasteurs, ils ne disent pas « je suis égoïste ». Ils prêchent la parole, mais derrière cela est le « moi, j'aime être quelqu'un ». Comme il est dit dans Vantard, par exemple, c'est pas seulement à cause de ou grâce à l'argent qu'on a, mais on veut être quelqu'un. On dit je suis le Seigneur, je prêche la parole pour lui, mais la vérité c'est moi qui veux être vu. J'exhorte pour les collectes, mais en vérité je veux les avoir pour moi. Alors ces mobiles, ces motivations sont derrière une apparence de piété. Et ça fait ces choses si graves. Les choses de corruption, les choses, comme nous avons vu de ce temps, de violence et de n'importe quoi qu'on voit dans ces 18-19 détails qu'on voit ici. On peut voir dans tous les détails. Je ne crois pas, on a le temps, si nous voulons finir ce chapitre, de regarder chaque point ici. Mais il faut voir une apparence qui peut être très, très pieuse. Et la réalité derrière, c'est le contraire. Alors, premièrement, ces choses parlent à nos consciences, nos cœurs, pour être clairs sur ce qui est nous présenté par la chrétienté. Deuxièmement, ces choses parlent comme avertissement à nous que nous ne sommes pas caractérisés, nous aussi, par ces choses de ces hommes. Parce que aussi, moi, comme nous avons entendu, nous aussi, nous pouvons prétendre, on peut faire une apparence très, très pieuse, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette apparence? Et peut-être, troisièmement, si on pense à cela, on peut voir dans tous ces détails le contraire. On peut voir avec le Seigneur. Il était l'opposé, le contraire de égoïste. Il a tout fait pour nous, pour les autres, pour son Père. Avare, il était riche. Il est devenu pauvre pour accomplir l'œuvre. Et on peut continuer avec cela. Alors, une troisième pensée, si nous voulons vivre vraiment pour la gloire du Seigneur, il faut prendre ses caractères et faire le contraire. On peut le voir uniquement, complètement avec le Seigneur.
C'est important aussi d'expliquer ces choses pour nos chers jeunes. Nous avons parlé de cette grande maison de la chrétienté. Alors, qu'est-ce que c'est dans notre vie? Tous qui sont dans cette maison portent le nom de chrétien. Peut-être dans ta classe, tu as des camarades qui sont chrétiens, catholiques, protestants ou autres, qui ont été baptisés, mais on ne voit pas dans leur vie pratique qu'ils ont une vie, une relation vivante avec le Seigneur. Ils vivent comme les gens du monde. Et puis, toi, tu es au milieu de cette classe et tu connais le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, et tu as le désir de le suivre et de l'honorer. Et puis, il y en a qui ont une certaine forme, qui ont une bonne éducation, un bon comportement. On pourrait dire, ils vivent presque comme un vrai chrétien. Nous rencontrons des gens comme ça. Et puis, il y en a qui ont la vie, mais on le voit très peu dans leur vie pratique. Ils sont croyants, mais ils vivent comme les gens du monde. Et là, au milieu, c'est toi. Nous avons lu de ceux qui ont une forme, mais qui renient la puissance. Première question, est-ce que tu as vraiment la vie? Est-ce que tu t'es tourné vraiment vers le Seigneur en lui confessant tes péchés, ton état perdu? Est-ce que tu es vraiment sauvé? Ou est-ce que tu as seulement une forme? Tu suis tes parents, tu vas aux réunions, tu te comportes à peu près, mais ça ne suffit pas. Il faut prendre une décision personnelle d'accepter le Seigneur comme ton sauveur par la foi. Et si Tu as la vie? Tu t'es converti? Peut-être jeune? Est-ce que tu vis réellement avec le Seigneur? Est-ce que tu as une vie de communion avec lui, de prière, de la lecture de la parole? Ou est-ce que c'est plutôt devenu une forme? La forme est encore là, mais le cœur est déjà loin. Alors, le Seigneur utilise aussi de tels moments pour nous parler à nos consciences, à nos cœurs, et pour nous demander, au milieu de tout ça, dans cette grande maison, où est-ce que je suis, moi? Et ces caractéristiques que nous avons lues, ça serait trop simple de dire, « Ah, ce sont les chrétiens qui n'ont pas la vie ». Chacun de ces caractéristiques peut être dans ma vie. Notre vie humaine, notre nature, la chair en nous peut produire tout cela. Et dans la chrétienté, il n'y a rien qui n'existe pas de toutes ces choses. Sinon, ça ne serait pas mentionné. Être égoïste. Combien de fois je suis égoïste dans mes pensées, dans mes façons de parler, de réagir? On pourrait dire l'égoïsme, c'est comme un titre sur toutes ces autres caractéristiques. C'est l'homme au centre, l'homme au milieu, c'est le moi. Et comment ça peut être destructif dans ma vie de couple, dans mon monde de travail, dans le voisinage, au milieu de l'assemblée, des traits d'égoïsme. Moi, je pense ça. Moi, je. Donc cela nous parle directement. Et comme nous l'avons déjà dit, c'est qui, quel homme a vécu sans égoïsme? Un seul, le Seigneur Jésus. Donc il faut le considérer, lui. Et l'apôtre Paul, il pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi, Christ. Si nous lisons, voyons la vie de l'apôtre Paul après sa conversion, il n'était pas égoïste. Tout ce qu'il a supporté, tout ce qu'il a souffert pour le Seigneur et pour les autres. Nous avons des ressources, oui. Nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, mais nous devons le laisser travailler en nous pour que dans nos vies, il n'y ait pas ces caractéristiques que nous voyons là.
Sur l'expression du verset 5, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance, donc on a bien souligné que ces hommes-là, ce sont les hommes qui composent la chrétienté. Il y a un manteau de piété, mais derrière le manteau, c'est l'homme naturel. Et sur l'expression, donc, la forme de la piété, je mentionne que le même mot est utilisé en Romains 2, verset 20, et il est dit « ayant la formule de la connaissance et de la vérité ». C'est le même mot, la forme ou la formule. Alors la forme, peut-être, ça montre plus une apparence extérieure. La formule, peut-être, c'est aussi notre façon de parler. On peut avoir des expressions pieuses. Et voilà, quand on a été éduqué dans une famille chrétienne, peut-être qu'il y a des façons de parler pieuses que l'on adopte facilement. Ça, ça peut faire partie de la forme de la piété. Mais il n'y a pas la puissance. Alors la question qui se pose, si on veut voir les choses d'un côté positif, c'est quoi la puissance de la piété ? Puisque certains l'ont renié, et c'est grave, c'est quoi la puissance de la piété ? Alors, on a, il me semble, souligné l'aspect de la nécessité d'avoir la réalité, en contraste avec l'apparence seulement. Et donc, la réalité, c'est la vie. Et donc, il me semble que dans la puissance de la piété, il y a la nécessité de la conversion, de la repentance, de la foi au Seigneur Jésus. Mais il y a aussi, il me semble, pour la vie du croyant, la puissance de la piété, c'est s'appuyer sur le Saint-Esprit et la ressource du Saint-Esprit. Et il me semble qu'on peut réfléchir à cet aspect des choses dans plusieurs domaines de la vie du croyant, la vie personnelle du croyant, et on pense à Romains 8, début de Romains 8, où il est question de la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc on voit là, dans un sens, un aspect de la puissance de la piété, le Saint-Esprit qui me délivre, qui m'affranchit de la loi du péché et de la mort. On pourrait aussi, il me semble, considérer le Saint-Esprit comme puissance de la piété dans le culte. On a mentionné Philippiens tout à l'heure, et je pense à Philippiens 3, où il est dit, verset 3, « Nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu. » Ça, c'est la puissance de la piété, la puissance dans le culte, c'est l'Esprit de Dieu. Et on peut se poser la question, dans quelle mesure nous sommes exercés pour rendre culte par l'Esprit de Dieu, pas par des formes, pas par des formes humaines ou des arrangements humains, mais par l'Esprit de Dieu. Et un autre aspect que je place devant nous, en rapport toujours avec la puissance de la piété dans notre vie, peut-être aussi dans notre service. Et là, je voulais juste mentionner dans 1 Corinthiens 12, où on voit l'importance du Saint-Esprit en rapport avec notre service. Je pense au verset 3, où on voit que c'est l'Esprit-Saint qui pousse à reconnaître la seigneurie du Seigneur dans le contexte du service et de l'activité. 1 Corinthiens 12, verset 3 et verset 11 du même chapitre, « Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. » Est-ce que nous réalisons le service, le sujet du service, en rapport avec l'action, la puissance du Saint-Esprit, et non pas l'activité, la puissance, la force de l'homme? Et il me semble que cette expression, donc, ayant renié la puissance de la piété, nous interroge sur ce qu'est la vraie puissance de la piété dans les différents aspects de notre vie.
Lorsque nous lisons cette liste dans les premiers versets, c'est clair que si nous aimons un peu le Seigneur, nous allons dire « mais c'est tout à fait éloigné de la vie d'un chrétien. Il n'y a pas de danger, moi je vais les reconnaître tout de suite. » Mais nous avons ce verset donc « ayant la forme de la piété. Tout ce qu'ils sont en eux-mêmes est recouvert d'un vernis. Et nous ne savons pas toujours ce qu'il y a derrière. Bien sûr, certains éléments, on peut le voir assez vite. Mais beaucoup de ces choses-là sont cachées. Et c'est ce que nous avons entendu, c'est la chrétienté de nom, ceux qui sont chrétiens de nom, mais qui ne le sont pas de cœur. Et c'est un grand danger, parce que on peut suivre de telles personnes lorsque nous ne réalisons pas que ce ne sont pas des vrais enfants de Dieu. C'est frappant de voir qu'il est dit « ils sont amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu », Et juste à côté, ayant la forme de la piété. On voit là le contraste. Mais cette forme de piété, elle peut nous cacher beaucoup de choses. Certains dirigeants, beaucoup de dirigeants politiques, pour être élus, ils savent qu'il faut parler de Dieu. Dans certains pays, c'est important. Et on parle de Dieu et on dit oui, on va même jusqu'à prêter serment devant la Bible. Et par exemple, il y a un dirigeant bien connu qui, dans son programme, ce qui était important, c'était d'être contre l'homosexualité. On a bien entendu que c'était mauvais. Le programme, c'était surtout contre l'homosexualité et contre l'avortement. Ah, ben voilà, ça c'est un dirigeant chrétien. Et beaucoup de personnes, chrétiens de nom même, de vrais chrétiens, ont voté pour lui. C'est quel programme? C'est bien quelqu'un qui publiquement dénonce ces choses-là. Et puis après, quand vous voyez cette personne dirigée, et que vous lisez cette liste, est-ce qu'il ne vous semble pas que beaucoup de choses de cette liste le concernent dans sa manière d'être? Et beaucoup de ceux qui avaient voté pour lui se sont rendus compte après de l'erreur qu'ils avaient fait. Mais c'est un danger qui nous guette aussi. Parce que être chrétien, ce n'est pas seulement dans quelques domaines où là on montre un drapeau, et dans d'autres domaines où on laisse tout de côté. Et comme cela a été dit aussi, on peut avoir ne fût-ce qu'un de ces caractères en tant que vrai chrétien, égoïste ou avare ou un peu hautain. Et déjà là, c'est un mauvais exemple. Mais que nous puissions vite saisir autour de nous, parmi les personnes que nous côtoyons, qui sont des vrais chrétiens, et qui ont seulement ce vernis, n'ont que la forme de la piété, mais n'ont pas la vraie piété.
Lorsqu'on arrive à la fin de cette liste, fin du verset 5, « Or, détourne-toi de tels gens. » Il n'y a pas d'autre action à prendre. Nous ne sommes pas là pour réformer le monde, pour l'améliorer, ni pour réformer la chrétienté. C'est d'ailleurs, en quelque sorte, la même ressource qui nous est donnée au chapitre 2, au verset 19. « Qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. » Aujourd'hui, parler de séparation, ce n'est pas très populaire. Plusieurs parmi nous peuvent témoigner que quand nous étions jeunes, on en parlait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais nous devons comprendre que ce chemin de séparation tel qu'indiqué par Dieu, c'est toujours un chemin vers le Seigneur. Ce n'est pas un but en soi, mais c'est pour se trouver en communion avec le Seigneur. Et puis, il y a un autre aspect très important. C'est un chemin qui nous protège, parce que nous sommes en danger d'être contaminés par tous ces caractères. Et être séparés pour Dieu, c'est aussi une protection pour nous. Dans ces caractères, on en voit deux qui s'attaquent à nos relations de famille. Il nous est parlé désobéissant à leurs parents et sans affection naturelle. Et j'aimerais toucher un point pratique pour des parents qui ont encore des enfants en bas âge. La parole de Dieu nous enseigne comment éduquer nos enfants. Et la manière dont la parole nous en parle est aussi à l'opposé de ce qui se passe et des méthodes préconisées dans la chrétienté. Où va aller
notre préférence. Comment allons-nous recevoir la sagesse dont nous avons besoin dans un tel contexte pour éduquer nos enfants? Allons-nous adopter les méthodes pédagogiques du monde ou allons-nous nous laisser instruire par la parole de Dieu?
J'avais un peu cette même pensée, comme il y a beaucoup d'enfants aussi et de jeunes qui sont présents. L'obéissance, c'est un principe qu'on trouve partout dans la Bible. Même déjà avant la chute de l'homme, Dieu avait donné un seul commandement qui était très facile à garder, mais l'homme a désobéi. Et puis après, c'était encore beaucoup plus nécessaire. J'aimerais juste citer ce verset en Éphésiens 6 que nous connaissons bien. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. » C'est ça que la parole dit. Ce n'est pas difficile à comprendre. Mais dans la pratique, ce n'est pas si facile, hein, d'obéir à ses parents. En plus, que ce n'est pas moderne dans ce monde d'obéir. Ce n'est pas seulement à la maison, c'est à l'école, c'est dans les formations, c'est partout que manque l'obéissance. Pourquoi obéir? D'abord, obéir à Dieu. Il est mon Créateur. Il est mon Seigneur, il est mon Maître, donc c'est tout à fait normal de l'obéir. Et dans la famille, obéir aux parents. Et les parents doivent obéir au Seigneur, bien sûr, obéir à la parole. L'obéissance devra être le point décisif dans toutes nos décisions, aussi en famille. Nous voulons ensemble obéir au Seigneur et à sa parole. Et le Seigneur lui-même, nous lisons, il a appris l'obéissance à travers de ce qu'il a souffert. C'était une autre sorte d'obéissance, bien sûr. Nous devons obéir parce que nous avons une nature rebelle. Le Seigneur, il était homme parfait. Mais en étant devenu homme, il est devenu dépendant. Il a pris cette position de dépendance de son Père. Il n'a rien fait sans la volonté de son Père. C'était une nouvelle expérience, pour ainsi dire, pour lui, étant homme. Il l'a parfaitement réalisé. Alors, qu'est-ce qui nous motive ? Les enfants, nous, qu'est-ce qui nous motive d'obéir au Seigneur? C'est l'amour envers lui. Il a dit, si vous gardez mes commandements, c'est là que vous allez prouver que vous m'aimez. Il n'a pas dit, c'est un bon sentiment, c'est les émotions. Non, d'obéir, de garder sa parole. Alors nous voulons nous encourager dans ces temps fâcheux de continuer à obéir au Seigneur, à sa parole, et aussi les enfants à leurs parents. C'est un chemin béni Et nous trouvons très souvent dans la parole l'obéissance liée à la foi. Les deux vont ensemble. Abraham, il ne savait pas où il allait, mais il obéissait et il avait la foi.
Je voudrais faire une remarque à propos de ces caractères. Si on lit dans 2 Timothée 2, il nous est parlé de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quel contraste entre cette description du chapitre 3 et ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le « mais toi, invoquer le Seigneur d'un cœur pur ». Dans le psaume 51, après la confession de David, nous lisons au verset 10, « Crée-moi un cœur pur, ô Dieu ». Un cœur non partagé, un cœur entier pour Christ, un cœur qui veille sur ses entrées, un cœur qui est gardé des idoles qui pourraient le souiller, un cœur qui est vidé de soi-même, un cœur qui bouillonne pour Christ, pour son Sauveur, un cœur qui est heureux en Christ, un cœur qui est engagé pour Christ, et un cœur qui est satisfait d'avoir Christ. Et nous nous souvenons de ce verset d'Éphésiens que Christ habite richement dans nos cœurs. Quelle description terrible de l'homme religieux, mais aussi quelle exhortation à invoquer chacun de nous, d'invoquer notre Seigneur d'un cœur pur.
Peut-être on pourrait encore ajouter une pensée concernant la fin du verset 5. « Détourne-toi de tels gens ». Nous avons vu dans les versets 2 à 4 les caractéristiques de ces hommes. Mais ici, à la fin du verset 5, il ne nous est pas dit « Sépare-toi de ces choses ». Non, il nous est dit « Détourne-toi de tels gens ». Donc, il y a deux aspects de la séparation. Il faut se séparer d'un côté du mal, des choses mauvaises, mais de l'autre côté des gens qui vivent des choses mauvaises. Et dans le chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au chapitre 3, verset 5, nous avons sept appels, sept avertissements de se séparer du mal et de ces gens. J'aimerais simplement montrer en vitesse au verset 14 du chapitre 2, nous avons l'expression « qu'on n'ait pas de dispute de mots ». Deuxième chose, au verset 16, « évite les discours vains et profanes ». Au verset 19, troisième aspect, qu'il se retire de l'iniquité. Au verset 21, quelqu'un se purifie de ceci, c'est les vases des honneurs. Cinquième point, au verset 22, fuis les convoitises de la jeunesse. Et sixième chose, au verset 23, évite les questions folles et insensées. Et le septième aspect, nous avons justement au verset 5 du chapitre 3. Alors, d'un côté, se séparer des choses mauvaises, de l'autre côté, d'éviter ou de détourner des gens. Alors, nous avons vu, nous vivons encore dans ce monde. Nous avons, comme 1 Corinthiens 5 nous dit, nous avons de commerce avec les gens avec lesquels nous vivons, à l'école ou au travail. Mais il faut quand même bien réfléchir comment on se détourne des gens dans ce monde que nous vivons. Et je crois, ça montre premièrement qu'il ne faut pas avoir de communion plus proche qu'il est nécessaire. Nous avons des choses obligatoires à faire, l'école, le travail, etc. Mais au-dessus de cela, nous n'avons pas le droit d'avoir de la communion avec le monde. 2 Corinthiens 6 nous le montre. Deuxième aspect, nous n'avons pas le droit d'avoir des amis, de faire de l'amitié avec le monde. Jacques 4, verset 4. Mais j'aimerais encore montrer un troisième aspect, j'aimerais vous le présenter. Je pense que ça nous parle aussi de l'Internet. Parce que le verset 6 nous le montre, je crois, nous parle aussi de l'Internet, parce que nous avons des gens, j'aimerais pas aller trop loin, mais nous avons des gens, des séducteurs, qui introduisent dans les maisons. Il faut bien réfléchir à cela. Comment un homme s'introduit dans les maisons? Nous connaissons des hommes qui sonnent à la porte et qui aiment prêcher, annoncer leur vérité, etc. Mais je n'ai jamais entendu qu'un homme s'introduit ou s'enfile, se file dans une maison, comme un serpent. Alors, je crois aujourd'hui, ça se fait par l'Internet. Alors, il faut bien réfléchir à cela. Comment se détourner de tels gens? Je pense aussi, je fais un exemple, si nous regardons des films mondains où nous trouvons par exemple justement ces caractéristiques dans chaque film mondain, je crois aussi on peut l'appliquer ainsi, de ne pas regarder des films mondains et ainsi nous pouvons aussi nous détourner de tels gens. Alors aujourd'hui, nous vivons dans un temps vraiment fâcheux, difficile, problématique. Et il faut bien réfléchir, chacun dans son domaine, comment je peux me détourner de tels gens.
Sans commenter un passage très longtemps, mais je pense que nous pouvons revoir les uns ou les autres, revoir en Matthieu 15. Je pense en Matthieu 15 à cette parole du Seigneur, qui peut aussi être liée ou faire écho à ce « retire-toi de tels gens ». Le Seigneur parle à ses disciples, des pharisiens, Matthieu 15, verset 14, et il dit « Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles, laissez-les. Laissez-les parce que ce sont des gens qui n'ont pas la vie. Toute plante que mon Père Céleste, verset 13, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. » Alors, ces hommes, ils critiquaient le Seigneur, ils refusaient l'enseignement du Seigneur, ils étaient scandalisés par l'enseignement du Seigneur. La tendance des disciples aurait peut-être été de dire au Seigneur, mais réponds, conteste, établis la vérité. Ou notre tendance serait peut-être de contester avec de tels gens. Le Seigneur dit non, laissez-les. Ce sont des plantes que le Père n'a pas plantées, ce sont des hommes qui n'ont pas la vie divine. Laissez-les, c'est inutile de discuter avec eux. Je dis inutile de discuter, il faut bien faire la différence entre discuter et rendre un témoignage clair, c'est pas la même chose, mais discuter, c'est s'engager dans un débat pour essayer de convaincre les gens avec des arguments, c'est rentrer sur leur terrain. Donc, laissez-les. Et ce qui est intéressant, important pour nous dans ce passage, et qui est en relation avec le passage que nous considérons dans la deuxième épître à Timothée, c'est que justement, le Seigneur met en lumière la différence entre cette forme de piété qu'avaient ces pharisiens. Par exemple, ils insistaient sur le fait de manger avec des mains non lavées, verset 20, et ce qui est la réalité du cœur. Du cœur sortent les mauvaises choses. Du cœur, verset 19, viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, etc. Et du cœur aussi, du cœur qui a été purifié par l'obéissance à la vérité, du cœur du croyant doivent sortir les choses nouvelles. L'abondance du cœur, sa bouche parle. Donc c'est ce passage, on peut, d'une certaine manière, mais je ne veux pas le développer, parce qu'il faut rester sur le sujet, mais il peut faire un écho à ce que nous avons vu là, et montrer comment le Seigneur, justement, aussi nous enseigne à ce sujet-là, dans cette séparation, dans ce qui vient du cœur, dans ces formes de piété qui n'ont pas de valeur. Et on voit effectivement ici aussi que donc il y a parmi ces hommes, ces gens, ceux qui s'introduisent dans les maisons. Il y a un enseignement qui est reçu dans les maisons. Mais L'apôtre Paul dit qu'il avait prêché dans les maisons, mais il ne dit pas seulement « j'ai prêché dans les maisons » en acte 20 dans son discours aux anciens d'Éphèse. Il dit « vous savez comment j'ai prêché publiquement et dans les maisons ». Et c'est important parce que prêcher publiquement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ceux qui sont là entendent. Il y a des hommes qui entendent, il y a des frères qui entendent. Et celui qui enseigne parle en quelque sorte dans la pensée que ses frères l'entendent et que si nécessaire, les frères corrigeront, compléteront, rectifieront, l'avertiront s'il dit des choses qui sont fausses. Et donc il y a cet équilibre pour vouloir enseigner de façon un peu plus privée, dans les maisons ou peut-être dans des groupes plus ou moins privés, il est bon que nos frères sachent ce que nous avons dans notre cœur, ce que nous enseignons, comment nous l'enseignons. Ça ne veut pas nécessairement dire que pour faire une école du dimanche ou un camp d'enfants, il faut que je sois un frère qui enseigne publiquement dans l'assemblée. Ça veut dire qu'il faut que ce que je dis, ce que je pense, ce que j'enseigne soit connu de mes frères, qu'ils aient pu le voir, qu'ils puissent éventuellement corriger, encourager, reprendre, pour que cet enseignement soit sain. Parce que ce qui se passe dans les maisons, c'est aussi, la maison est un lieu fermé. Et il ne faut pas que ce qui est dans ce lieu fermé soit différent de ce qui est connu de mes frères, de ce qui est public vis-à-vis de mes frères. Alors effectivement, ensuite, il y a ce qui rentre dans les maisons, et certainement, Internet est un... Autrefois, les livres, déjà, mais Internet tout particulièrement, c'est un moyen de faire rentrer dans les maisons toutes sortes d'enseignements qui sont de mauvais enseignements. Il faut donc y être attentif, parce que si le cœur n'est pas en garde, si la conscience n'est pas en garde, n'est pas exercée, si le cœur n'est pas en garde, et si la parole n'est pas notre référence, alors là, il y a des dangers, effectivement.
Il me soit permis d'ajouter encore deux pensées pratiques à ce qui concerne le verset 5. Ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Où est le problème? Est-ce que le problème est la forme de la piété ou le manquement de la puissance? Ce sont les deux choses liées ensemble. Une forme extérieure de la piété, ce n'est pas une chose mauvaise. Avoir un témoignage, avoir une confession, avoir un comportement extérieur, ce n'est pas mauvais. Le problème, c'est quand ce témoignage, cette forme, n'a pas de réalité, n'a pas de vie, s'il n'y a pas de puissance. Parfois, on entend les hommes qui disent « Dieu regarde l'intérieur ». Le comportement, la forme, ce n'est pas important. Il est vrai que Dieu discerne l'intérieur, mais cela ne dit pas que la forme extérieure est sans importance pour nous comme chrétiens. On peut avoir une forme de piété, mais en réalité, avec puissance, rempli de l'Esprit Saint. J'aimerais utiliser une petite illustration aussi pour nos enfants et les jeunes gens. Une montre traditionnelle. Quel est le but d'une montre? Elle nous indique l'heure, n'est-ce pas? Maintenant, il est 11h55. C'est le but d'une montre. Une montre traditionnelle se comporte deux choses, les aiguilles et le moteur, l'intérieur de la montre qui fait tourner la montre. Il faut les deux. Je peux avoir une montre sans aiguille et la montre ne m'indique pas le temps. Je peux avoir une belle montre sans intérieur, sans moteur. Les aiguilles sont là, mais non plus, je ne vois pas quelle heure il est. Alors, il faut les deux choses. Il faut la forme extérieure, il faut une confession, il faut un comportement, un emballage, pour ainsi dire, mais il faut aussi le contenu. Il faut aussi avoir la réalité, la vie dedans, qui fait pousser l'extérieur. Alors les deux choses sont importantes. Le problème ici, c'est qu'il y a une forme extérieure, mais il n'y a pas de puissance. Ça, c'est le problème. Deuxième remarque, il est dit « Or, détourner de tels gens ». La question qui se pose, quelle est notre réaction envers la méchanceté et ceux qui font ces choses? Les chrétiens qui ont seulement une profession sont vie. Quelle est notre réaction? Une première possibilité, on s'adapte. Et on risque d'être influencé. C'est une impasse. Il ne faut pas s'adapter. Une deuxième réaction possible, on se rebelle. Mais c'est non plus le chemin de Dieu, se rebeller. On peut aussi se résigner. C'était peut-être un petit peu le danger de Timothée, la résignation. On dit, ce n'a plus de la peine de suivre le Seigneur ou de servir le Seigneur. On arrête. Mais la réaction que l'apôtre Paul nous montre ici, cela a déjà été expliqué, or détourne de tels gens. Il faut s'abstenir de la méchanceté et de ceux qui la pratiquent. C'est ce que Roman venait de dire, de nous expliquer. Ces deux choses sont vraies et importantes. D'un sens, c'est négatif, n'est-ce pas? Se détourner, se séparer, c'est une chose négative. Mais c'est quand même nécessaire. Mais ce n'est pas seulement une chose négative. Dans la suite du chapitre, nous voyons aussi une réaction positive. Et ça, c'est au verset 14. « Mais toi, demeure dans ces choses. » Et ce sont des autres choses, des choses positives. « Mais toi, demeure dans ces choses, car tu as appris et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as appris. » Alors, l'apôtre Paul fait mention des choses valables et des personnes qui ont instruit dans ces choses. C'est tout le contraire de ce que nous trouvons dans les premiers versets de ce chapitre. J'aimerais juste mentionner cela. Déjà maintenant, il y a une réaction, ainsi dire, négative, détournée, se séparer, mais il y a aussi cette réaction positive d'être occupé avec les choses valables qui se trouvent dans la parole de Dieu.
Sur les versets 6 à 9, juste une remarque ou deux, on a déjà parlé. Donc on voit que parmi ces chrétiens de nom, simples professants, sans vie, on pourrait dire qu'il y a des meneurs et des menés, des séducteurs et des séduits. Et ça ressort à partir du verset 6, d'entre eux, donc ils ne sont pas tous comme ça, mais parmi eux, il y en a quelques-uns qui ont ce caractère. Et ce sont donc les séducteurs, les meneurs, et ils vont donc, on l'a vu, dans les maisons. Donc il y a un aspect sournois, Roman a parlé du serpent, il y a un aspect sournois, ceux qui entrent dans les maisons et qui s'attaquent à des proies faciles. Et l'apôtre Paul a utilisé ces mots, famelettes chargées de péché, entraînées par des convoitises diverses qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Donc il y a un profil de proie facile. Et il me semble que ce qui ressort de ces proies, c'est avec l'expression famelette, c'est peut-être l'aspect de personnes qui sont naïves ou crédules, qui croient facilement tout ce qu'on leur dit. Et donc voilà, nous avons à être attentifs qu'il y a ces meneurs qui ont des méthodes sournoises et qui s'attaquent à des proies faciles. Et on voit aussi cette expression qui est étonnante. Ils apprennent toujours, mais ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. On a l'impression qu'on remet toujours en question. On essaye d'apprendre, on remet en question, mais on n'arrive jamais à quelque chose de solide, la connaissance de la vérité. Et dans le verset 8, il me semble qu'il y a un autre aspect qu'il faut souligner, c'est l'aspect de la résistance ou de l'opposition par imitation. De nouveau, on a parlé de l'apparence, et là, il me semble qu'il y a l'aspect de ces personnes qui, de la même manière dont Jannès et Jambres résistèrent à Moïse, donc ce sont ces magiciens égyptiens qui reproduisaient jusqu'à un certain point les miracles que Moïse faisait devant le Pharaon, eh bien, de la même manière que cela, ces hommes résistent à la vérité. Donc on voit qu'il y a une capacité d'imiter. Et on sait qu'aujourd'hui, dans la chrétienté, il y a des imitations bluffantes, excusez-moi l'expression. On pense à tout le mouvement aussi charismatique où on imite, où on cherche on pense faire voir la puissance de Dieu. Il y a donc une forme de puissance, mais qui n'est pas la réalité. C'est une imitation. Et par cette imitation, on résiste à la vérité. Et donc nous sommes là aussi appelés à être vigilants à ces choses. Nous pouvons faire face soit par des choses extérieures, des signes de puissance, ou peut-être par des discours ou des raisonnements qui sont peut-être attrayants, mais qui sont seulement des imitations et qui, en fait, dans le fond, sont des oppositions à la vérité.
Juste un verset pour illustrer ce qui vient d'être dit dans 2 Corinthiens au chapitre 11, au verset 13, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. » On voit donc combien cela est dangereux de suivre de tels hommes. Et dans 2 Timothée au chapitre 4, il nous est dit au verset 3, « Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Voilà pourquoi il faut à tout prix nous séparer de telles personnes.
On a parlé du danger d'Internet et des films, mais certainement nous sommes tous en danger de nous laisser séduire par cela. On voit ici aussi le danger d'enseignement pernicieux. Et de nouveau, Internet est un moyen facile, avec des vidéos très attrayantes, de faire pénétrer des enseignements qui nous détournent de la vérité. Mais là aussi, le Saint-Esprit est cette puissance en nous. Quand on parle de puissance, on aurait peut-être tendance à voir des choses impressionnante. Mais cette puissance de l'esprit en nous, c'est aussi, quand on est exposé à un faux enseignement, ce malaise, cette petite voix que Dieu nous incite à écouter, qui nous dit « attention, danger ». Soyons sensibles à cette voix de l'esprit qui nous prévient, qui nous avertit, et qui cherche à nous ramener dans le chemin de la vérité.
La vérité est une chose essentielle. On est dans un monde où, d'une certaine manière, on relativise. On relativise la vérité. Moi, j'ai ma vérité, vous avez votre vérité, et c'est dramatique. Ce n'est pas ainsi. Il y a une vérité. La parole est la vérité. Et Dieu nous révèle les choses telles qu'elles sont, la vérité de Dieu. Et il n'y a pas d'autre vérité.
Ce qui est, on a remarqué que dans cette épître, il y a trois fois des personnes qui sont nommées par deux. Les premiers, c'est Phygèle et Hermogène, au chapitre 1er, au verset 15. Et que dit l'apôtre ? Tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie, du nombre desquels sont Phygèle et Hermogène, se sont détournés de moi. Ils ne se sont pas détournés du Seigneur, ils se sont détournés de Paul, c'est-à-dire ils se sont détournés de l'enseignement de l'apôtre Paul. On commence par mettre de côté une partie de la vérité, parce qu'on trouve qu'elle est trop difficile, qu'elle est trop compliquée, qu'elle n'est pas facile à vivre. Donc on met de côté une partie de la vérité. Et puis, la deuxième étape, au chapitre 2, c'est le verset 17 et 18. « Leur parole rongera comme une gangrène, desquelles sont Hyménée et Philète, qui se sont écartés de la vérité. » Ce n'est pas encore la contestation, mais on choisit un autre chemin. Il y a la vérité, mais on va apporter quelque chose d'autre, parce qu'on pense peut-être que c'est meilleur, que c'est plus, qu'on peut le recevoir plus facilement. On prend un chemin de traverse. Et puis, le troisième groupe de deux hommes, c'est Jannès et Jambrès, et ceux-là, ils résistent à la vérité. C'est chaque fois la vérité qui est au cœur du sujet. Est-ce que nous... Et la question, donc, c'est est-ce que nous préservons cette vérité de la parole de Dieu dans son intégrité, dans sa plénitude, ou, comme le faisaient ces deux premiers, Phygèle et Hermogène, est-ce que nous nous disons qu'après tout, il y a des vérités qui sont trop compliquées, trop difficiles à vivre, et nous les laissons de côté? Si nous commençons comme cela, on finira par s'écarter de la vérité, et après s'être écarté de la vérité, le danger majeur est que l'on soit exposé à ceux qui résistent à la vérité. On est, encore une fois, autour de nous, tout est... La tendance humaine, c'est de relativiser tout, chacun à sa vérité. Et on estime que sa vérité, elle est aussi légitime que la vérité d'un autre. C'est fondamentalement contraire à ce que nous... à Dieu lui-même. Dieu est le Dieu de vérité, le Dieu vivant et vrai. Le Seigneur Jésus est la vérité, la parole de Dieu est la vérité, l'Esprit qui nous présente et nous fait comprendre cette parole de Dieu est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité, soyons-en assurés, parmi toutes les choses qui s'introduisent dans les maisons, il y a, par Internet notamment, il y a ces pensées de relativisme qui sont tellement pernicieuses.
53.